C'est pas parce que vous quittez le milieu universitaire que vous allez arrêter d'apprendre. Vous allez toujours apprendre. Ce que vous apprenez à l'école, c'est une façon d'apprendre et des connaissances rudimentaires sur votre futur métier. Mais votre futur métier, vous l'apprendrez tous les jours sur le terrain.
Bienvenue dans le podcast Altitude, le podcast qui vous montre que rien n'est écrit à l'avance, qui vous fait prendre de la hauteur, qui vous montre que la liberté de changer de voie existe et qu'on a le droit de sortir des sentiers battus.
On ne fait pas toujours le parcours le plus linéaire pour aller d'un point A à un point B. C'est important aussi de, des fois, passer par des points intermédiaires, qu'on en tire toujours quelque chose. Peut-être pas sur le coup, peut-être qu'il faudra travailler sur soi, que ça prendra quelques mois, quelques années. Mais à la fin, on apprend toujours quelque chose de chacune des expériences qu'on a vécues.
Je m'appelle Emma, je suis étudiante en sciences politiques européennes à ESPOL, et pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Perrine, qui est une ancienne étudiante de la faculté de gestion, économie et sciences de l'Université catholique de Lille. Elle est passée par une prépa scientifique, puis 2 ans d'école d'ingénieur, avant de se réorienter en licence informatique. Perrine, aujourd'hui, est développeuse web. Elle travaille dans une ESN, une entreprise de services du numérique, qui conçoit et réalise des infrastructures informatiques sur mesure. Bonjour Perrine, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui.
Bonjour, je suis très ravie d'être là.
Alors, pour commencer, on va parler un petit peu de ton parcours académique. Donc, tu as commencé tes études supérieures, comme je l'ai dit, par une prépa scientifique. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience ?
Alors, la prépa, c'était quelque chose de très difficile. Moi, j'étais arrivée en prépa, j'avais quasiment jamais eu besoin de bosser pour y arriver. Et je me suis retrouvée un peu face à un mur. Je me suis accrochée, j'ai réussi, mais je savais très bien que 2 ans, ça serait le max que je pourrais faire. Je ne pourrais pas essayer de redoubler encore une fois. Donc, en fait, à la fin de ma prépa, j'ai fait maintenant, j'intègre. Du coup, je suis partie à l'ISEN parce que ça me plaisait plus ou moins le programme qui disait, il me donnait de l'informatique. C'était déjà quelque chose que j'avais envie de faire à l'époque. C'était un peu bingo.
Quand tu étais plus jeune, quand tu étais par exemple, quand tu étais encore une enfant, c'était quoi ton métier de rêve ? Est-ce que ça avait déjà un lien avec ce que tu fais aujourd'hui ?
Non. Quand j'étais vraiment toute petite, je voulais être coiffeur, puis fleuriste. Arrivée au collège, lycée, c'était prof de maths. Vraiment, le métier que je voulais, c'était prof de maths. Je me sentais pas de faire une licence en sortie de juste après le bac. Du coup, je me disais prépa, ça pourra toujours me permettre de me réorienter, de continuer sur les maths si j'ai envie. Au final, je me suis rendu compte en prépa que non, prof, c'était pas pour moi. J'étais pas capable d'enseigner à une classe complète, en one-to-one, oui, mais pas une classe.
D'accord. Donc tu t'es réorienté plusieurs fois. D'abord, tu es passé de la prépa à l'école d'ingénieur. Ensuite, tu es passé de l'école d'ingénieur à la licence informatique. C'était quoi ton état d'esprit au moment de te réorienter ?
Alors, après la prépa, de toute façon, il fallait que j'intègre une école. Donc, c'est pas vraiment une réorientation, mais c'est une insertion dans une école qui, normalement, avait déjà sa prépa intégrée. Donc, du coup, c'était assez neutre. Par contre, quand j'ai quitté l'ISEN pour partir en licence, d'un côté, j'étais un peu frustrée d'avoir fait 2 ans et d'avoir l'impression de ne pas avoir fait quelque chose vu que j'étais restée à un niveau bac plus 2. De l'autre, j'étais contente parce que je savais vraiment, du coup, à ce moment-là, ce que je voulais faire, que je voulais vraiment bosser dans l'informatique, faire du développement et que j'étais vraiment sur le bon parcours pour y arriver.
D'accord. Donc, cette transition pour toi de l'ingénierie à quelque chose de plus informatique, c'était naturel, c'est venu naturellement dans ton esprit ?
Ouais. Après, je sais que j'aurais pu faire ce que je fais aujourd'hui en restant à l'ISEN. Donc, c'est en ça que je trouve que c'est un petit peu un échec d'être passé à l'ISEN parce que finalement, j'ai pas réussi. C'est parce que je validais pas que j'ai dû me réorienter. Au final, c'était vraiment un mal pour un bien parce que ça m'a permis de faire de l'alternance que j'aurais pas pu faire à l'ISEN. Et je me plaisais à la fac, en fait. C'était beaucoup plus suivi. J'étais dans une petite promo. L'ambiance était très, très sympa. Les cours étaient super intéressants. Donc, au final, je me sentais bien. Mais au début, c'était un petit peu difficile de dire « Ah, j'ai fait une école d'ingé, j'ai pas réussi et je me réoriente ». Il m'a fallu quelques années avant de vraiment accepter que « Oui, j'ai appris des choses à l'ISEN, ça m'a servi, ça me sert toujours ». C'était une étape dans mon parcours et aujourd'hui, je suis bien où je suis en l'ayant fait, quoi.
D'accord. Et justement, tu parles des choses que tu as tirées de l'ISEN. Quel bénéfice tu as tiré de toutes ces expériences différentes, que ce soit la prépa, l'école d'ingénieur ?
La prépa m'a appris à travailler, clairement. M'a appris aussi un petit peu plus mes limites, à quel point j'étais capable de travailler, à quel point j'étais résistante face à l'effort. Et je suis pas un surhomme non plus. L'ISEN m'a appris donc plus tout ce qui est relations humaines. Et j'ai travaillé à la cafette de l'école, j'ai eu des cours de sciences humaines que j'ai pas eu et que j'aurais pas eu en faisant juste une fac d'informatique. Et ça m'a aussi permis de me faire un réseau, parce que du coup, c'est aussi des personnes qui travaillent un peu dans le même domaine que moi, donc je retrouve des fois des anciens camarades. Et la fac, pour le coup, elle m'a vraiment appris plus mon métier.
D'accord. Et tu avais quel ressenti par rapport au fait de faire enfin quelque chose qui te plaisait, vraiment ?
J'étais contente, j'étais soulagée, un peu déçue, parce que une réorientation, c'est aussi dans une perte d'argent au final. Et quand c'est nos parents qui financent, ça fait toujours un petit peu le coup de « ouais, je vous ai demandé ça, et puis je vous redemande encore ça ». Après, ils m'ont toujours soutenue, ils m'ont jamais fait de reproches. Et du coup, quand ils ont vu que je m'éclatais en cours, que j'avais des bonnes notes, que je suivais, ils m'ont fait « non, mais il n'y a pas de souci ».
Est-ce que tu as douté de toi pendant ce processus ? Est-ce que tu as eu d'autres peurs par rapport au fait de te tromper, par exemple ?
Non. À partir du moment où j'ai trouvé mon stage de L3, et je l'ai trouvé au bout de trois mois de cours, donc je l'ai eu très très rapidement, j'avais plus de doute parce que je savais que mon stage risquait très fortement de déboucher sur une alternance pour mon M1 M2. Donc à partir de là, pour moi c'était banco, j'étais sur la route pour arriver avant même la fin de ma L3, je savais que j'aurais mon master.
Et plus généralement, quelles leçons tu as apprises de ta réorientation ? Est-ce qu'il y a eu des leçons que tu as tirées de cette réorientation qui t'ont servi pour la suite, plus tard, dans ta vie d'adulte par exemple ?
Ouais, ça m'a appris à accepter les échecs, à accepter que on fait pas toujours le parcours le plus linéaire pour aller d'un point A à un point B, et que c'est important aussi de des fois passer par des points intermédiaires, qu'on en tire toujours quelque chose. Peut-être pas sur le coup, peut-être qu'il faudra travailler sur soi, que ça prendra quelques mois, quelques années, mais à la fin, on apprend toujours quelque chose de chacune des expériences qu'on a vécues.
Dans ces moments qu'on peut qualifier d'échecs, qui n'en sont pas vraiment, comme tu viens de le dire, plus des moments de réorientation, des moments pour trouver sa voie. Est-ce que tu t'es sentie soutenue ? Est-ce que tu t'es sentie encouragée ? Par qui ?
Oui, mes parents m'ont toujours encouragée. Ils m'ont jamais fait de reproches sur le fait de m'être orientée, de ne pas avoir fait aussi bien que... En même temps, ils n'avaient pas forcément beaucoup d'attentes, à part que je sois heureuse. Donc pour eux, ils m'ont fait « ok, on te suit ». J'ai des profs qui m'ont aussi beaucoup encouragée quand j'ai quitté l'école d'ingénieur. J'ai mon prof d'informatique, quand je suis allée lui demander une lettre de recommandation pour arriver à la Cato, qui m'a dit « Ah, mais je suis triste que tu partes, j'aurais aimé t'avoir l'année prochaine ». Et c'est vrai que dans ces moments-là, ça réconforte aussi, ça donne l'impression que « Oui, en fait, j'ai quand même de la valeur, ok, je suis en train de me réorienter, j'ai eu l'impression d'être dans une situation d'échec, mais il y a des gens qui considèrent que j'ai de la valeur et que je peux y arriver ». Et ça fait énormément de bien.
Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé qu'on te dise à ces moments-là ? Des choses qui t'ont manqué, qui t'auraient aidé dans ce processus ?
Qu'on dise que finalement, oui, toute expérience est bonne à prendre. C'est, je pense, un truc que personne ne m'a dit et que j'aurais aimé. Ça m'aurait peut-être permis de digérer plus vite certaines déceptions.
Passer par plusieurs milieux, passer par plusieurs études, passer par la prépa, l'école d'ingé, la licence, est-ce que ça t'a appris aussi à être plus à l'aise avec le fait de naviguer dans différents milieux ?
Oui. Oui, je pense que parce que à chaque fois, c'est un recommencement. C'est arriver à apprendre de nouvelles personnes, apprendre de nouvelles façons de travailler, apprendre de nouveaux domaines techniques. Et c'est quelque chose qu'en plus sert énormément. C'est quelque chose de hyper flippant, se dire « Ok, là, de toute façon, j'ai pas le choix, faut que j'y aille. Je vais rencontrer des nouvelles personnes. » Je suis timide. Donc moi, rencontrer de nouvelles personnes, c'est toujours très, très compliqué pour moi. Mais... c'est quelque chose que j'ai dû faire et c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup. Parce que quand on rencontre des nouvelles personnes, c'est aussi s'enrichir personnellement.
Pour s'éloigner un petit peu plus du sujet de tes études, tu fais un travail aujourd'hui, un métier qui est connoté comme étant très masculin. Tu es développeuse web et c'est un métier dans lequel il y a peu de femmes. Est-ce que tu as été confrontée à des freins dans tes études ou dans ta vie personnelle par rapport à ça ?
Alors, non. En informatique, oui, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Là, dans mon équipe, on est une dizaine, je suis la seule femme. Il n'y a pas vraiment un univers machiste, les gens sont très ouverts. De temps en temps, oui, je rappelle que c'est bien de se souvenir que je suis une femme et que je ne suis pas le copain qui va boire de la bière et jouer au foot. Mais je n'ai jamais eu de remarques sexistes ou quoi que ce soit.
Et avec le recul que tu as aujourd'hui, est-ce que ça a été difficile de trouver ta voie ou est-ce que ça a été un cheminement qui était plus naturel ?
Ça a été quand même peut-être un petit peu difficile. Moi, ça m'a jamais dérangé d'être dans des univers très masculins. J'ai fait de la science d'ingénieur au lycée. C'était déjà un endroit où il y avait principalement que des garçons. Prépa, j'étais déjà quasiment la seule fille de la classe. Mais ça me dérange pas. Mais je sais que il y a des fois, j'ai essayé d'encourager des amis à faire comme moi et je sentais un peu comme un plafond de verre, en fait, finalement. Oui, mais les maths, c'est pas pour les filles. J'aime pas la physique.
Il y a des gens, des modèles par exemple, qui ont influencé justement ce mode de pensée et qui t'ont donné un peu cette opinion qui est contraire à celle que la société nous donne.
Ben, par exemple, ma sœur qui est ingénieure. Qui est ingénieure, elle, pour le coup, sur une école qui est vraiment réputée pour être très masculine. Qui est en plus beaucoup plus vieille que moi, donc avait déjà fini ses études quand moi j'ai commencé les miennes. Qui m'a toujours aidée à faire mes devoirs de maths, mes devoirs de physique. Et qui m'a clairement montré que, ben, en fait, si tu t'éclates à faire des maths, et ben, fais des maths. C'est, je pense, un de mes modèles principaux. Ma mère, qui a un métier qui n'est pas spécialement non plus très féminin, agricultrice totalement sur l'exploitation avec mon père. Au final, quand il faisait quelque chose, c'était, bah, fallait le faire. C'était pas elle s'occupe de la maison, lui s'occupe de la ferme. C'est il y a le balai à passer. Bah, mon père va le faire s'il a le temps parce que ma mère doit faire autre chose. Il n'y a pas de domaine réservé.
Donc ce conditionnement, il est très important. Est-ce que toi aussi, tu le répercutes sur ta vie de famille actuelle ?
Dans ma vie de famille, on essaye vraiment de ne pas montrer à nos enfants qu'il y a des domaines qui sont réservés à telle personne. On essaye même plutôt de leur expliquer, bah ok, si c'est papa qui fait toujours ça, c'est parce qu'en fait, papa préfère le faire ou que maman n'aime pas le faire et que papa, ça le dérange pas. Si mon fils a envie de prendre la poupée, ben, il prend la poupée. Si ma fille a envie de jouer avec le garage, elle joue avec le garage.
Et par rapport à ton développement personnel, à partir du moment où tu as commencé tes études et au moment où tu as réussi à trouver le métier qui te convenait, le métier qui te plaisait, est-ce que ça a été un chemin qui a été difficile pour toi ? Comment est-ce que tu l'as vécu ?
Le fait d'être une femme, je l'ai vraiment jamais mal vécu sur mon chemin. Le chemin lui-même a été des fois compliqué, mais plus parce que j'ai eu des réorientations, parce que j'ai eu des fois l'impression de pas prendre le chemin direct, d'avoir du mal à le digérer. Mais au final, ça n'a jamais été en relation avec est-ce que je suis une femme ou pas.
Dans quel état d'esprit, justement, tu parles de ces réorientations, de ces échecs? Comment est-ce que tu l'as appréhendé? Est-ce que ça a été facile?
Quitter l'ISAN a été quand même un peu compliqué. Sur le coup, j'étais en colère. D'avoir été acceptée, d'avoir intégré et d'en ressortir sans avoir de diplôme en plus. Je suis arrivée bac plus 2, je suis ressortie bac plus 2. Ça m'a pris, je pense, ouais, 2-3 ans avant d'arriver à dire oui, non, j'ai appris des choses, c'est pas vrai, je suis pas sortie sans rien. J'ai gagné des amitiés que j'ai toujours, j'ai appris des choses. Sur moi, j'ai appris aussi à être quelqu'un de... Enfin, j'ai appris à avoir une meilleure relation avec les autres, à m'exprimer plus proprement, à ne pas vexer les autres quand je suis un peu trop brute. Mais ouais, sur le coup, c'était difficile.
Cette colère, ces émotions, tu as appris à les gérer comment ?
Avec le temps, avec le fait de me présenter, de présenter mon CV, ça m'a obligée à dire la ligne ISEN est sur mon CV. Elle y restera pendant encore quelques années avant que j'ai d'autres choses à mettre à la place. Et il faut que je les dise, je peux pas dire j'ai pris 2 ans sabbatiques. Donc à partir de là, si je veux les présenter, il faut que je puisse dire j'en ai retiré quelque chose de positif. Et à ce moment-là, j'ai dû travailler sur qu'est-ce que j'ai retiré de positif. Et à ce moment-là, mais oui, en fait, j'ai retiré des choses.
Et cet état d'esprit positif, est-ce que tu penses que, par exemple, dans le milieu des études, est-ce que les professeurs devraient l'encourager ?
Oui, clairement, ils devraient dire que c'est pas... Quand ils disent, ils annoncent qu'une année n'est pas validée, ils devraient peut-être un peu plus aider les étudiants à dire « Ok, j'ai pas validé, mais c'est pas grave, c'est pas un échec. C'est une autre façon d'arriver au but que je veux. C'est j'ai appris des choses, j'en ai retiré des choses, maintenant... Qu'est-ce que je peux en faire pour atteindre mon but ?
Quand tu es rentrée dans le monde professionnel, la cassure entre le monde étudiant et professionnel, ce passage-là, comment tu l'as vécu ?
Assez doucement, parce que j'avais déjà 2 ans d'alternance. Donc du coup, c'était pas d'un coup, j'ai changé d'univers. Je suis rentrée dans le monde de l'entreprise en L3 avec un stage de 3 mois. J'ai continué dans la même entreprise en alternance à mi-temps. Et du coup, quand je suis arrivée dans le monde de l'entreprise, c'était, moi, j'étais déjà habituée à travailler. Enfin, pour moi, mon quotidien, c'était plus le boulot que les cours. J'ai découvert des nouveaux univers dans le sens où j'ai bossé en ESN au début. Je suis passée un peu par une start-up. Je suis revenue en ESN, mais dans une mentalité totalement différente. Mais au final, c'était toujours du boulot, quoi.
Pour revenir sur ce que tu dis sur l'alternance, justement, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'existe pas, par exemple, dans ma filière. Je suis en sciences politiques et il n'y a pas du tout d'alternance. C'est pas quelque chose qui est développé. Après, il est normal qu'il y ait plus d'alternance dans certaines filières que dans d'autres. Mais je pense que c'est quelque chose qui devrait être très encouragé. Parce que ça aide les étudiants à passer, justement, à faire ce passage entre les études et le travail, qui sont deux mondes très différents et qui sont deux mondes qui ont des exigences très différentes. Donc c'est vrai que c'est bien que tu l'évoques, parce que c'est vrai que toi ça t'a aidé, ça a fait un passage en douceur entre guillemets, et oui c'est vrai que c'est quelque chose qui devrait être encouragé par la France, c'est encouragé dans d'autres pays européens, mais la France est un peu en retard sur ce sujet. Tu travailles actuellement pour une entreprise qui a reçu le prix Great Place to Work, qui s'appelle Davidson, pour son engagement en faveur du bien-être de ses salariés. Est-ce que changer de voie académique, comme tu l'as fait pour trouver quelque chose qui te ressemble, et les valeurs éthiques que tu as au travail, d'avoir choisi cette entreprise qui promeut le bien-être des salariés, est-ce que c'est un peu la même configuration, le même cheminement de pensée ?
Oui, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au boulot, faut être honnête. Et si tu te plais pas dans ton boulot, si tu te plais pas dans ce que tu fais tous les jours, si t'as pas envie quand tu te lèves le matin d'aller au boulot et te dire ah je vais faire quelque chose, ça va changer la vie de à mon échelle, ça va changer la vie des autres, je vais faire quelque chose qui va les aider, ben en fait t'as pas envie de te lever. Et ben tu te lèves quand même 5 jours par semaine pour aller au boulot. Donc moi j'avais besoin d'avoir un travail qui avait du sens pour moi. Quand j'étais en alternance, c'était pas forcément toujours évident. Davidson, c'était vraiment la réconciliation avec les ESN, dans le sens où les missions qu'on m'a proposées, elles me plaisaient, et on a écouté. On m'a écouté là-dessus, on m'a dit « Bon, bah ok, si celle-là te plaît pas, c'est pas grave, on va t'en chercher une autre, où tu te sentiras bien. » C'est le cas actuellement sur ma mission, c'était le cas sur ma précédente mission, j'ai une mission qui s'était pas bien passée. Bon, on m'a dit « Ok, c'est pas grave, on va t'en trouver une autre, et puis tu vas te plaire, tu vas t'éclater au boulot. » Et c'est ça que j'adore avec Davidson.
Et qu'est-ce que ça a changé sur ton rapport au travail au quotidien ? Le fait de trouver une entreprise qui, justement, se préoccupe de bien-être des salariés, une entreprise qui est considérée comme éthique, qu'est-ce que ça t'a apporté ?
En soi, moi, ça m'a apporté du plaisir à aller au travail. Le fait de savoir qu'elle est éthique, qu'elle essaie d'être écolo, d'avoir un impact positif sur la société, c'est une source de fierté, c'est une motivation à y contribuer. Après, dans la vie de tous les jours, à part le fait que j'ai une mission qui me plaise parce que ma boîte veut m'écouter, ça change pas non plus tant que ça. C'est vraiment plus le côté source de fierté de savoir que j'ai une boîte qui est bien, en fait, qui se soucie de moi, qui se soucie de la société. Parce que, en plus du coup du Best Place to Work, ils travaillent sur le B Corp, qui est un label... justement plus sur l'impact société que sur vraiment juste ses salariés. Une fois que les salariés sont heureux, on peut essayer d'avoir une démarche pour aller plus loin, en fait.
D'accord.
Donc c'est de l'investissement sur des projets humanitaires, c'est encourager ses salariés à faire des missions autour pour aider, en fait, vraiment tout ce qui est société et compagnie.
Et quelles valeurs tu as envie de transmettre ? Parce qu'aujourd'hui, tu es maman, tu as des valeurs à transmettre à tes enfants. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant pour eux, dans les études ou dans la vie professionnelle ?
Alors, dans les études, clairement, il n'y a pas de domaine qui t'est interdit. Si tu travailles, si tu as les capacités intellectuelles, parce qu'évidemment, on ne peut pas tous être bons partout, mais si tu travailles... Il n'y a aucun métier qui t'interdit. Tu peux très bien, même si t'es une fille, être ingénieur dans un domaine très masculin. Si t'es un garçon, être infirmier. N'importe. Il n'y a pas de domaine qui doit être fermé. Il n'y a pas besoin de se conformer aux stéréotypes de genre sur les métiers. Dans le travail, c'est fais-toi plaisir. Si ton métier ne te fait pas plaisir, alors c'est vraiment que t'as choisi un métier. Juste parce qu'il va te permettre de faire tes hobbies à côté. Mais il faut qu'il y ait si tu veux t'en sortir dans la vie, il faut que tu arrives à trouver un équilibre pour que tu fasses à un moment dans la journée quelque chose qui te plaît. C'est juste pas possible autrement.
Donc ta valeur un peu de base, ça serait de faire vraiment ce qu'il te plaît, en dépit de tous les freins qu'on peut avoir dans la société ou les freins qu'on se met soi-même, d'avoir un métier, de faire des études qui nous plaisent, mais que ça débouche aussi sur un métier que l'on aime.
Ouais, clairement, c'est ça. Et si tu sais que le domaine dans lequel tu voudrais idéalement travailler ne te permettra pas de vivre de ça, ben dans ces cas-là, tu le prends pas peut-être en domaine de travail, mais tu t'assures d'avoir une rentrée d'argent pour pouvoir le faire en tant que hobby.
Et aujourd'hui, donc, tu aimes ton métier?
Ouais. Alors aujourd'hui, je m'éclate au boulot et j'ai pas forcément besoin d'avoir mon hobby à côté qui me permet de totalement décompresser de ma journée de boulot. J'ai fait quelque chose que j'aimais pas.
Et tu comptes, quand on a discuté au téléphone, tu m'avais dit penser à éventuellement relancer ta formation ou au bout de quelques années arrêter le métier de développeur web pour te réorienter vers quelque chose d'autre. Vers quoi est-ce que tu aimerais t'orienter? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer dans ton travail actuel pour être encore plus épanoui?
Alors, c'est clairement pas dans le domaine de demain. Après, la formation personnelle, c'est quelque chose qui est quand même important. On peut toujours apprendre et je trouve que c'est assez valorisant de se dire j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Dans le boulot, je sais pas. Honnêtement, c'est quelque chose. Je me dis que de toute façon, mon métier, il est voué à évoluer. Aujourd'hui, on commence pas une carrière avec un métier et se dire dans 40 ans, je ferai encore le même métier. Mais je pense que c'est au moment où je commencerai à me dire ah, là, ça devient quand même lassant de faire toujours la même chose. À ce moment-là, je regarderai qu'est-ce qui peut me permettre d'avoir une bonne rentrée d'argent. Pas forcément un salaire mirobolant, parce que pour moi, le but, c'est pas d'avoir vraiment l'énorme salaire, c'est d'avoir un salaire qui me permette de vivre et de me faire plaisir. C'est finalement ma qualité de vie qui m'importe le plus, donc trouver des choses qui me plaisent, que ça soit à côté du boulot, soit au boulot, et d'avoir l'argent pour du coup pouvoir financer ça.
Et c'est facile de concilier à la fois cette envie de stabilité financière, mais aussi l'envie de se développer personnellement, l'envie de faire quelque chose qui nous plaît au quotidien, ou est-ce que c'est beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions?
Ça dépend, je pense, de qu'est-ce qu'on a envie de faire. L'informatique, c'est un domaine où il y a beaucoup de débouchés, donc c'est pas forcément très compliqué de se dire je quitte mon boulot et je peux changer, je peux choisir la boîte que je veux. Je suppose qu'il y a des métiers, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Que ça soit le journalisme, tout ce qui est domaine très créatif, les places sont peut-être beaucoup plus chères, et dans ces cas-là, ben, je suppose que, ouais, il y a un moment, faut vraiment se poser des questions. Ça n'a jamais été mon cas pour le moment, donc j'en suis plutôt contente.
Et aujourd'hui, par rapport à l'avenir, comment est-ce que tu le conçois? Qu'est-ce que tu aurais envie de mettre en place? Est-ce que tu aurais envie de changer quelque chose dans ta vie professionnelle?
Non, je suis bien où je suis bien. Enfin, le métier que je fais me plaît, les conditions dans lesquelles je travaille me plaisent. Je suis à 80% pour pouvoir éduquer mes enfants et ne pas les avoir 50 heures à la crèche par semaine. Et moi, ça me va très très bien d'être comme ça. J'ai pas spécialement envie de changer quelque chose dans les prochaines années. Par contre, je pense qu'effectivement, 80% pour ma qualité de vie, pour pouvoir avoir un peu de loisirs à côté, le week-end, être tranquille, avoir une petite famille, ça réussit bien ma famille, en fait.
Et aujourd'hui, donc, tu as grandi, tu es sorti de ce milieu universitaire qui peut être parfois stressant. Qu'est-ce que tu as tiré de, à la fois, ta réorientation, mais aussi ton parcours universitaire qui t'aide aujourd'hui dans ta vie d'adulte?
Je dirais de la confiance en moi. Au final, d'avoir réussi à avoir un diplôme, ça m'a permis de me rappeler, oui, je suis capable de faire des choses, je suis capable d'arriver à avoir un diplôme, j'arrive à mener des projets à terme. Ça m'a appris énormément de choses sur moi, sur mes limites, sur mes forces. Ça m'a appris à être plus à l'aise à l'oral aussi. Je suis quelqu'un d'assez timide à la base. Donc, toutes les expériences que j'ai tirées, toute la vie associative dont j'ai fait partie, ça m'a construit. C'est clairement, j'étais pas la même personne quand j'ai commencé mes études que je suis aujourd'hui. De toute façon, toutes les expériences qu'on a dans la vie, que ce soit purement scolaire, purement en dehors du scolaire, du professionnel, du familial, tout ça nous construit.
Et cette confiance en soi dont tu parles, comment est-ce que aujourd'hui les étudiants pourraient en acquérir plus? Comment est-ce que dans les universités, dans les facs, on pourrait aider les étudiants à avoir plus confiance en eux?
Je pense que ça passe par la mise en place de petits projets, des choses. On va leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses. Donc les jobs étudiants, le fait d'aider à la fac, moi, comme toi par exemple avec ton job d'animer un podcast, au final ça te permet aussi de prendre confiance en toi, de voir que tu arrives à mener des choses à bout, tu arrives à faire un podcast, tu arrives à faire une interview. C'est toujours des choses qui te montrent « Ah, j'ai une petite réussite ». C'est vraiment quelque chose que moi, je cherche. C'est ma petite réussite du jour, au final. Et des fois, les petites réussites du jour, en fait, c'est des réussites énormes. C'est des choses sur lesquelles ça fait des mois et des mois qu'on bosse. Et aujourd'hui, j'ai réussi à faire un truc. Que ça soit dans le domaine sportif. Enfin, je sais que, par exemple, je fais du sport. À chaque fois que j'arrive à faire un nouveau truc, que j'ai un nouveau record personnel, c'est « Ah, j'ai fait quelque chose et ça fait des mois que je le bosse et c'est passé ».
Aujourd'hui, tu accordes beaucoup de place justement à ces petites fiertés du quotidien, ces petites victoires qu'on remporte chaque jour.
C'est ça. Ça peut être, aujourd'hui, j'ai réussi à courir 10 km. Ça fait 3 mois que je m'entraîne pour ça, j'ai réussi. Ça peut être, aujourd'hui, j'ai réussi à faire une tâche au boulot sur laquelle je bossais depuis 2-3 jours. On peut toujours, au moment d'aller se coucher, trouver quelque chose qu'on a réussi à faire ce jour-là. Moi, c'est ce qui me permet de me dire, j'ai de la valeur, j'arrive à faire des choses.
Est-ce que tu aurais un ou des conseils à donner aux étudiants qui nous écoutent, qui se sentent peut-être un peu perdus parmi tous les parcours possibles, parce qu'il existe des milliers de filières, et qui appréhendent aussi le fait de faire des choix et éventuellement se fermer des portes?
Au final, on ne ferme jamais réellement des portes. Ok, on devra peut-être reprendre d'un petit peu plus loin pour arriver à faire ce qu'on veut faire, mais on ne se ferme jamais réellement des portes. Donc, allez-y. Si vous avez une idée de quelque chose qui vous plaît, testez. Testez-le soit en hobby si vous pouvez. Par exemple, le développement informatique, on peut le faire en hobby. Il n'y a pas besoin d'être à la fac pour le faire. Il y a plein de tutos sur Internet. Mais il y a plein de domaines où on peut arriver à avoir un peu ces choses-là. Si vous posez la question entre du manuel, finalement, et du super intellectuel, c'est pareil, vous pouvez tester. Et pour les domaines un peu plus où c'est moins facile de tester, tentez une année. Au pire, vous aurez appris quelque chose. Au mieux, vous aurez trouvé votre voie, en fait. Mais se réorienter n'est pas un échec. C'est une étape de plus pour arriver à son but.
Et être curieux, rester toujours curieux, c'est nécessaire? Toujours apprendre?
Ouais, c'est clairement quelque chose qui est extrêmement nécessaire. Et de toute façon, c'est pas parce que vous quittez le milieu universitaire que vous allez arrêter d'apprendre. Vous allez toujours apprendre. Même quand vous allez travailler, vous allez devoir vous documenter. Ce que vous apprenez à l'école, c'est une façon d'apprendre. Et des connaissances rudimentaires sur votre futur métier. Mais votre futur métier, vous l'apprendrez tous les jours sur le terrain.
D'accord. Et est-ce que tu penses qu'on laisse suffisamment de place, justement, à cet apprentissage par l'expérience dans le milieu universitaire actuel ?
C'est compliqué. Ça dépend, je pense, des filières. Clairement, l'alternance, c'est un très bon moyen d'apprendre son futur métier. Même si, au final, ce que j'ai appris en alternance aujourd'hui ne me sert plus vraiment. Parce que j'ai changé de mission, parce que du coup, j'utilise plus exactement les mêmes outils. Mais je pense que l'école, ça apprend surtout une façon d'apprendre. En fait, on vous apprend à apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui servira toujours.
Et en termes de connaissances factuelles que tu as, ce que tu as appris à la fac, est-ce que ça te sert encore beaucoup dans ton travail actuel? Ou est-ce qu'au final, l'expérience que tu as gagnée, c'est ce qui est prépondérant?
C'est plus ce que j'ai vraiment gagné en expérience ces dernières années qui me sert, clairement. En plus, sur un domaine comme l'informatique, où c'est plutôt technique, il y a des bases, il y a des concepts que j'ai appris à l'école dont je me sers encore. Mais en soi, la mise en application, c'est mes dernières années de boulot. Ce que je retiens surtout de l'école, c'est au final des méthodes pour travailler. Comment chercher de la documentation, des choses comme ça. Mais c'est pas forcément ce qu'on apprend directement de l'école. Mais aussi pas mal, effectivement, tout ce qui est les cours de sciences humaines, où c'est quelque chose que j'avais beaucoup à l'ICEN et qui me sert dans ma relation avec mes collègues. Mais c'est pareil, c'est pas une mise en application directe, c'est plus que j'ai intégré ces cours et que du coup, je me rends compte que je m'en sers, mais c'est pas un exercice, quoi.
Et c'est quels aspects des sciences humaines qui t'aident au quotidien ?
Je sais que j'avais eu des cours sur la résolution des conflits, sur m'expliquer à quelqu'un qu'il a fait quelque chose que je n'apprécie pas ou qu'il travaille d'une façon avec laquelle j'ai du mal. Sans être agressif, par exemple. Mais du coup, c'est pas réellement du scolaire. Je l'ai eu en scolaire, mais on pourrait très bien l'apprendre dans une fratrie ou des choses comme ça, en fait. Enfin, c'est rarement des applications directes que je réutilise de ce que j'ai fait en cours. C'est plus des concepts, en fait.
Il y a une espèce de filtre entre ce que tu as appris à l'université et ce que tu appliques aujourd'hui au quotidien.
C'est ça. En fait, on a des cours, on les antériorise, et puis on va ressortir plus l'idée derrière. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, on apprend surtout à apprendre. À la fac, plus qu'on apprend des choses. On apprend à apprendre, on apprend à travailler. On apprend à travailler dans le sens où on apprend à faire des choses qu'on n'a pas envie forcément de faire, mais à les faire quand même parce que derrière, c'est un but et que ça nous permettra de faire quelque chose qu'on a envie de faire. C'est vraiment plus ça que je retiens de la fac que J'ai appris la loi de machin truc en physique, ou j'ai appris de la physique quantique, j'ai appris tel théorème de maths. Ces choses-là, on les réutilisera jamais, en fait.
Est-ce que parfois tu penses, tu imagines ce qui se serait passé, quel serait ton métier aujourd'hui si tu avais, par exemple, réussi tes 2 années d'ingénieur? Qu'est-ce que tu aurais fait si ça s'était passé différemment?
J'aurais peut-être pas fait exactement le même travail. J'aurais peut-être, pour le coup, je serais quand même, je pense, restée dans l'informatique, mais j'aurais peut-être été plus chef de projet parce que j'aurais découvert une autre façon de travailler dans l'informatique. Après, c'est des si. Ok, c'est des choses qui auraient pu arriver. Est-ce que pour moi, ça vaut le coup de s'attarder dessus? Pas vraiment.
Tu n'as aucun regret par rapport au parcours que tu as eu?
Non. Aujourd'hui, je suis bien où je suis et pour moi, c'est plus ça qui compte. Si je commence à regarder et à me dire « Ah, j'aurais pu prendre telle branche, j'aurais pu faire ça », ben, c'est un peu me dire « Ouais, je vais avoir des regrets et puis je vais les ressasser et puis au final, ça m'apportera rien ».
Ça, c'est vrai que c'est quelque chose... Parce que quand on est dans le milieu étudiant, moi, j'y suis encore, je suis en 3e année, de licence, et c'est vrai qu'on se dit si je rate ma licence, si je rate mon diplôme, je vais pouvoir rien faire de ma vie. C'est un peu l'appréhension qu'on a de après repartir sur un tout nouveau cursus, refaire à nouveau 3 années de licence ou d'école, et c'est vrai que c'est très angoissant de se dire que on peut rater sa vie entre guillemets, alors que en fait on nous apprend pas en tant qu'étudiant à relativiser l'importance de notre diplôme, de notre réussite, de nos échecs.
C'est sûr, c'est clairement quelque chose qu'on ne nous apprend pas en tant que personne, parce que ce n'est même pas spécifiquement un problème d'étudiant, c'est un problème qu'on a tous les jours. Quand j'accepte une mission, je sais que je me ferme une autre mission. Et puis si ça commence à me plaire un petit peu moins dans la mission, je vais dire « Ah, mais j'aurais peut-être pu partir chez un tel, ça aurait été mieux, les techniques finalement auraient été plus sympas, quoi que ce soit. » Je me paralyse. Et c'était la même chose à l'école, en fait. C'est j'ai fait ça, j'ai décidé de bosser plus tel cours que tel cours parce que je pensais que c'était plus important vis-à-vis de mon diplôme. Mais finalement, j'ai peut-être fait une erreur. Et en fait, ce genre de pensée, c'est juste paralysant. Faut aller de l'avant, faut accepter un moment de « bon, ben là, je fais un choix, c'est difficile, je fais un choix. Ok, je prends une pièce pour faire mon choix parce que je suis pas capable de le faire. » Ou j'en parle à des amis et je vais essayer de construire plus une réflexion. Quelle que soit la façon dont on prend une décision, il y a un moment quand on prend une décision, il faut l'assumer.
Et toi, dans ta prise de décision, dans les choix que tu as dû faire et que tu as pu faire, qu'est-ce qui t'a aidé?
Moi, je suis pas dans le trou avec la pièce. J'ai des amis qui sont plus comme ça, mais moi, c'est plus je vais en parler. Je vais en parler à plein de personnes différentes, à ma famille... Même si c'est un domaine qui leur parle pas du tout, j'en parlais à des connaissances qui sont plus dans ce domaine-là. Et puis je vais construire petit à petit ma réflexion. Ça veut pas dire que les premières semaines après avoir pris la décision, je vais pas douter. J'essaie juste de me rappeler que si je doute, je me paralyse et que, si c'est ça, je fais plus rien.
Et ce doute, justement, tu le gères comment?
J'évite d'y penser. Maintenant, de toute façon, c'est fait. On n'en parle plus, on va de l'avant et puis on assume.
C'est ta philosophie de vie de te dire je vais de l'avant, je continue, peu importe le choix que je prends, peu importe la voie que je vais emprunter, je continue.
Ouais, et mais paradoxalement, je suis quelqu'un qui doute énormément. Donc en fait, si j'ai pas maintenant de toute façon j'ai pris la décision, j'y vais, je suis réellement paralysée. Sur les choix engageants, effectivement... Acheter une maison, choisir des études, c'est des choix qui nous engagent pour plusieurs années. Et c'est paralysant, effectivement. Mais si on est paralysé, on ne fait plus rien. De toute façon, il faut y aller.
Donc le conseil que tu donnerais aux étudiants qui nous écoutent et qui sont peut-être dans une période de choix, d'études, de master, de licence, tu leur donnerais le conseil de partager autour d'eux les différentes options qu'ils ont et de prendre les conseils d'autrui?
C'est prendre les conseils. Pas réellement prendre les conseils, c'est écouter. Essayer d'avoir des avis aussi divergents. Ne pas aller parler aux personnes qui vont nous donner... soit on a déjà une très bonne idée de ce qu'on va faire et on va aller parler juste aux personnes qui vont nous conforter dans cette idée-là. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet d'avoir des bases de... Quand il y a des moments doux de... Non, mais j'ai pris cette décision pour telle et telle raison. Mais quand on est vraiment perdu, de prendre tous les avis... de les intégrer, d'y réfléchir, de se dire « là, je me donne une heure et je pense à ça, et oui, je sais que ça va être une heure où je vais être dans le doute, je vais être paralysée, ça va être compliqué. Par contre, je me donne une heure. Ensuite, je fais autre chose. Je me change vraiment les idées. Je vais aller courir, je vais aller Et en soirée, je vais penser à autre chose. Maintenant, je me suis donné le temps de réflexion, j'ai pris une décision et je l'assume.
Et on parle des conseils des autres, mais est-ce que s'exposer aux conseils des autres, c'est pas aussi s'exposer à un regard des autres qui peut nous juger ?
Si, et c'est en ça que je dis, c'est faut écouter les conseils, c'est pas, mais ils sont pas à ta place. Si le conseil qui te dit ne te plaît pas, bah t'as le droit de dire non. Par contre, généralement, c'est que si tu dis non, c'est que tu vas trouver les arguments toi pour dire, mais en fait, il me donne ce conseil-là, mais je l'apprécie pas. Et ça permet en fait de construire vraiment un raisonnement derrière la décision qu'on a prise. Après, ça peut être juste aussi... Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir forcément un raisonnement. On ne sait pas. Oui, des fois, juste jeter une pièce et dire, ben là, de toute façon, j'ai des arguments pour et des arguments contre sur les deux choix qui se propres à moi. Ben, je prends une pièce et puis advienne que pourra. Parce qu'on ne sait pas fermer une porte. Ou en tout cas, on l'a fermée, mais peut-être que temporairement. C'est peut-être partir dans un truc. Se dire, ah oui, finalement, j'aurais peut-être dû faire l'autre choix, mais on pourra rebifurquer. C'est une étape dans un parcours.
Et assumer ses décisions, s'affirmer aussi en quelque sorte soi-même, ça rend plus fort ?
Ouais, clairement, parce que t'apprends à te connaître, t'apprends à savoir vraiment qui tu es, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes priorités, qu'est-ce qui est pour toi vraiment nécessaire, ce sur quoi tu ne voudras jamais faire de compromis. Et ben, c'est se construire soi-même en tant qu'adulte, en fait. Parce que je pense que quand on sort du lycée, qu'on commence à être étudiant, c'est vraiment ce qu'on cherche le plus, c'est qui on est.
Et toi, dans justement cette découverte de ton identité en tant qu'adulte, est-ce que ta réorientation, tes échecs, ça a été quelque chose qui t'a forgé ?
Clairement, oui. Et peut-être même plus des fois que mes réussites au final. Parce que ça m'a montré vraiment mes limites, ça m'a obligé des fois à trouver des ressources à côté. Gérer des déceptions, ça m'a par exemple fait faire du sport parce que j'avais besoin d'extérioriser une certaine colère. On se construit beaucoup par rapport à ses échecs, je pense, même presque plus que par rapport à ses réussites.
Quelles ont été les grandes étapes de ta construction personnelle ?
Ben, partir de chez mes parents était déjà une première étape parce que ça a été prendre mon indépendance, quitter le cocon familial, vivre dans 9 mètres carrés étudiant, c'était déjà un grand changement. Ensuite, devoir me mettre à travailler à l'école parce que, ben, en fait, me rendre compte que j'étais pas capable d'être tête de promo sans rien faire. Et même me rendre compte, au bout de quelques mois, que même en travaillant, je pouvais pas être tête de promo, que ben, j'avais des limites. Fallait que je bosse et que je bosse beaucoup. Et que même en bossant beaucoup, j'étais moins bonne que ma tête de promo qui, lui, ne faisait rien. Ben, c'était aussi un échec pour moi de me rendre compte que ben, j'étais pas aussi géniale que je le pensais. Donc ça m'a pris un peu plus mes limites. Découvrir que ben, j'avais fait un choix et que ce choix s'était révélé pas mauvais, mais pas le bon. Donc choisir une école d'ingénieur que j'ai pas réussi à valider. En alternance, ne pas arriver à m'affirmer, à dire « mais cette mission-là, clairement, ça me plaît pas. Trouvez-moi autre chose. Vous m'avez trouvé autre chose, mais vous m'avez renvoyé dans ma première mission, ça marche toujours pas. » C'est difficile aussi de s'affirmer en entreprise, mais au final, ne pas s'affirmer, c'est aussi se fermer des portes parce qu'on se retrouve dans un moment où on n'est pas bien, où on ne se plaît pas et c'est compliqué. Et du coup, ça forge un peu plus le « mais qu'est-ce que je veux réellement faire de ma vie quand je suis au travail ?» En fait, c'est souvent mes échecs qui m'ont forgé plus que mes réussites.
Et dans ces périodes-là, le doute s'installe, j'imagine. Comment tu as réussi à rester à flot, à ne pas te laisser submerger par ce doute ?
Comme je disais, c'est me laisser des périodes, des petits moments vraiment pour douter à fond. Et où clairement, des fois, je finissais en crise de larmes parce que oh, je vais jamais y arriver. Et ensuite, y aller de l'avant. Le sport m'a beaucoup aidée sur ces moments-là parce qu'au final, c'est un moment où on ne pense pas à ce qui ne va pas. Et le sport, c'est un moment où on peut avoir les petites réussites. Les petites réussites quotidiennes, c'est aussi ce qui permet des fois de repousser les doutes.
Et avec le recul, est-ce que tu es fière de ton parcours ?
Ouais. Clairement, oui, je suis bien où je suis aujourd'hui. Et je ne peux pas enlever une seule étape pour pouvoir arriver où je suis aujourd'hui, que ce soit dans ma vie familiale ou ma vie professionnelle. C'est les étapes que j'ai faites m'ont permis de me faire le réseau qui m'a permis de trouver mon compagnon. Ça m'a permis de trouver mon emploi. Ça m'a permis d'avoir la mission où je suis actuellement et où je suis très bien. Donc clairement, je ne retirerai pas une seule étape, même si effectivement, il y a des moments où c'était très très compliqué. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui.
Donc en soi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des...
Il n'y a que des étapes dans un parcours.
D'accord. C'est oui, c'est intéressant cette philosophie de vie. C'est quelque chose que tu t'es appliqué dès le début de tes études. Il y a pas vraiment d'échecs.
Non, je pense que ça, il a quand même fallu que j'attende de sortir du milieu étudiant. Et c'est un des trucs que j'aurais aimé qu'on me dise avant. Mais il a fallu vraiment que j'apprenne à assumer mes échecs pour pouvoir me dire, mais en fait, c'est pas des échecs. Je pense vraiment que un des trucs qui m'a aidé là-dessus, c'est le moment où j'ai commencé vraiment à rechercher du travail, que ce soit en alternance ou que ce soit pour ma boîte après mon alternance, c'est présenter mon CV. Parce que pour présenter son CV, il faut assumer chacune des lignes. Si on essaye de cacher ou de masquer une ligne, un recruteur va le voir. Donc de toute façon, il faut présenter. Et en fait, à force d'essayer de le présenter, on va finir par trouver les points positifs de chacune de ces étapes. Et là, on se rend compte que, ah mais oui, mais en fait, c'est une étape. Ok, j'ai pas réussi ça, pour tel et tel raison. Par contre, ça m'a appris ça. Ça m'a permis, du coup, d'être là où je suis aujourd'hui. Et les recruteurs, au final, chacune des lignes d'un CV, si on sait les valoriser, ils vont dire, ok, ça me va. Il n'y a pas besoin de regretter, il n'y a pas besoin de masquer son CV. Et c'est assumer chacune de ces lignes qui fait que on est qui on est et qui fait qu'on va trouver un travail, qu'on va finir par trouver sa place.
Et si tu devais citer quelques valeurs qui forgent ta personnalité, qu'est-ce que tu citerais ?
En valeur, les études m'ont appris à être assez acharnée pour atteindre les buts que je me fixe. Je dirais que du coup, j'ai pas peur de travailler. Je suis capable d'assumer ce que je choisis de faire. Que ce soit bien ou mal, j'assume. Après, je suis pas sûre d'avoir tant de qualités que ça. Je suis plutôt timide. Je suis capable, quand il y a besoin, de prendre sur moi pour être beaucoup plus communicatif. J'en ai des fois besoin au boulot. Donc ça, c'est aussi des valeurs que l'école m'a appris. Enfin, pas des valeurs, mais plus des compétences qu'on m'a appris à l'école. Mais ouais, non, je saurais pas dire vraiment mes principales qualités en dehors de acharner et qui va de l'avant, quoi.
Et si tu devais revenir en arrière, est-ce qu'il y aurait un choix que tu ne ferais pas ou est-ce que tu, au contraire, ferais un autre choix, par exemple, t'orienter directement dès le lycée dans une licence informatique ?
Non, parce que clairement, je ne changerais rien. Parce que je ne pense pas qu'après le lycée, j'étais capable d'aller à la fac. En tout cas, avec les connaissances que j'avais à l'époque, je pense que je n'aurais pas réussi. Je pense que je n'aurais probablement même pas pris une licence informatique. J'aurais probablement parti en maths. J'aurais probablement pas réussi parce qu'à l'époque, je ne savais pas travailler. Donc en fait, la prépa, ça m'a appris ça. L'école d'Inge m'a appris d'autres choses. Je suis la somme de mes expériences.
Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à justement les étudiants qui peuvent être, comme tu dis, flippés de changer de voie, de devoir à nouveau redécouvrir tout un milieu, redécouvrir de nouvelles personnes ?
Ne pas y aller d'un coup, ne pas se dire c'est un énorme changement, c'est y aller petit à petit, prendre les choses une par une, se donner des petits objectifs. C'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup. Ne pas se dire je fais ma grande rentrée, c'est hyper important pour mon avenir, c'est... Ok, je vais prendre le bus et puis je vais aller à l'école. Une fois que je suis à l'école, je vais parler à une ou deux personnes. Et puis je vais écouter. C'est vraiment d'y aller, vraiment petit objectif, découpé. Parce que c'est vrai que quand on est face à un énorme objectif, ça peut être paralysant. Mais découper en petites tâches, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup moins flippant.
Et ce mode de pensée, on peut aussi l'appliquer au milieu professionnel ?
Ouais, clairement, ouais. Quand on voit... un énorme projet qui arrive en informatique, on voit vraiment un site web complet, en fait, on se dit « Ah mais, par quelle bouche je peux l'attaquer ?» Et au final, c'est de dire « je vais commencer par faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça. » Ça simplifie, ça permet aussi de se dire « Ah non, c'est pas si impressionnant que ça. » Et un des trucs qu'apprend aussi l'école, c'est découper en petites tâches. Parce qu'au final, quand on apprend à réviser pour un examen, c'est apprendre à je vais faire un premier cours, puis je vais faire le deuxième cours, puis le troisième cours.
Donc les études, tu nous l'as dit, ça t'a apporté pas mal de bénéfices, ça t'a appris énormément de choses. Qu'est-ce que tu aurais voulu apprendre ? Quelque chose, par exemple, que tu as appris sur le tab dans le monde professionnel, que tu aurais aimé qu'on t'apprenne avant ?
Je sais pas si vraiment j'aurais pu l'apprendre à l'école, au final, ce que j'ai dû apprendre sur le tas, parce que c'est tellement relatif à toutes les situations. Quand je parle avec certains de mes collègues, on a le même diplôme, mais on fait des choses tellement différentes au jour le jour que c'est, je pense, un peu compliqué de dire ah, ça, j'aurais dû l'apprendre à l'école. En tout cas, dans l'informatique, on se retrouve des fois à faire des domaines vraiment très différents ou sur certaines écoles d'ingé. J'ai des copains qui sont sortis d'école d'ingé, ils sont pas des copains à moi. Les copains de ma sœur qui sont sortis de sa promo, il y en a un qui est chef de projet informatique, il y en a un qui est chef logistique, il y en a un qui bosse dans la plomberie avec son diplôme d'ingé. C'est tellement vague en fait que, au final, on fait ce qu'on veut derrière, on va devoir apprendre des compétences sur le tas et c'est pas plus mal. C'est vraiment, pour moi, du coup, l'école doit nous apprendre à apprendre, à être capable de continuer d'apprendre après être sorti de l'école. C'est vraiment le plus important. C'est pas du coup les compétences qu'on aura besoin pour travailler, on les apprendra sur le tas. Parce qu'on sera capable de les apprendre.
D'accord. Qu'est-ce qui, en dehors de tes études, sur quelle force tu t'es appuyée ?
Il y a ma relation avec ma famille, clairement, de parler avec ma famille, d'écouter leurs expériences, c'est des choses qui m'ont apporté énormément. Il y a ce que j'ai fait en dehors du scolaire, le fait de faire du sport, par exemple, les amis que j'ai au sport, qui ne sont du coup pas du tout dans mon domaine professionnel, ça me construit aussi, en fait, parce que je découvre d'autres personnes et je m'enrichis de ces rencontres. Au final, on est vraiment la somme de toutes nos expériences, mais vraiment tout, dans quel que soit le domaine. Je sais pas, même un accident, même se casser la jambe, passer aux urgences, tout ça, c'est une expérience qui va nous enrichir.
Et c'est important pour toi de t'éloigner peut-être un petit peu du cercle que tu connais, du cercle développeur, du cercle informatique, avoir par exemple des amis qui viennent d'autres milieux.
Ouais, parce qu'au final, ça m'apprend d'autres valeurs. Des fois, ça me confonde par rapport aux stéréotypes que j'ai. C'est par exemple ça qui a fait qu'aujourd'hui j'ai une certaine vision du féminisme, que j'ai une certaine vision pour moi, comment la société devrait être. C'est parce que j'ai parlé à des gens qui étaient des fois hyper féministes, qui n'en étaient pas du tout. Le fait de parler avec des personnes qui ont fait des études totalement différentes ou qui ont décidé de ne pas faire d'études, c'est aussi une façon de se construire. J'ai fait des jobs étudiants, j'ai bossé dans un entrepôt Amazon. J'ai parlé à des gens qui, pour eux, les études, c'était juste pas possible. Du coup, ils ont décidé de partir et de faire quasiment de l'usine, en fait. Leur façon de voir les choses, ça m'a appris des choses. Mais je me suis construite plutôt en opposition par rapport à eux, mais je me suis construite.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas évoqué jusqu'à présent?
Alors, moi, je voudrais juste te dire, c'est en tout cas, toutes les filles qui nous écoutent, il n'y a pas de domaine qui vous est fermé. Même si on vous dit que, et si vous entendez dans votre famille, les domaines scientifiques, c'est pas pour les filles. N'y croyez pas. Vous avez votre place parmi tous les domaines scientifiques. C'est quelque chose que j'ai vraiment trop l'impression qu'on entend. C'est qu'il y a un peu un plafond de verre pour les filles et les maths. Surtout les maths, j'ai l'impression. Alors qu'en fait, non.
Et toi, ce plafond de verre, comment tu as réussi à l'exploser ?
Parce que j'ai eu quelques exemples qui m'ont dit que, non, il n'existe pas. Enfin, depuis que je suis en seconde, je suis en moyenne à 6 à 10% de filles dans les filières dans lesquelles j'étais. Mais en fait, c'est pas grave si je suis une fille, c'est pas grave si c'est principalement des mecs. C'est au final, si je suis capable d'y arriver, ok. Et si je m'éclate, j'y vais et puis c'est tout.
Et par rapport à tes valeurs, est-ce que tu te bats ? Est-ce que tu œuvres en tout cas pour... faire en sorte que tes enfants vivent dans une société qui soit égalitaire, une société qui soit plus facile pour aussi ta fille, pour les filles en général ?
Oui. Au final, j'essaie de faire un peu changer le regard de mes proches, de mes collègues, de ma famille sur ma façon de voir le féminisme, qui est plus de dire les femmes au pouvoir, mais plus au final, que je sois une femme ou un homme, c'est pareil. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et de pas forcément mettre un genre ou l'autre en avant. D'accepter nos différences et de se construire avec, en fait. Je suis pas une énorme partisane des grandes manifs pour changer les mentalités. Pour moi, c'est vraiment plus des petits actes. Des fois, je sais que quand je vois mes collègues qui finalement font un peu plus attention à ce qu'ils disent ou des choses comme ça, je me dis, j'ai peut-être aussi influencé une personne. C'est ma petite victoire du jour. Et puis c'est déjà un petit pas dans la bonne direction.
Toujours ces petites victoires qui reviennent.
C'est ça. J'ai vraiment tendance à découper les choses, que ce soit les tâches ou le bonheur en petits trucs, parce que je me dis c'est plus facile de trouver des petits fragments que de s'attaquer à un monolithe.
C'est une méthode que tu as appris seule ?
Ouais, je pense que oui. C'est vraiment la construction de mon parcours qui est de toutes mes expériences qui m'a appris que ouais, c'est comme ça que moi je fonctionne bien.
Et tu conseillerais du coup aux étudiants qui nous écoutent de fonctionner de la même manière ?
Si ça marche pour eux, oui. C'est d'essayer, ça, parce que je suis pas sûre que ça peut marcher pour tout le monde, mais clairement d'essayer et de voir si ça leur permet d'être un peu plus heureux, un peu plus serein par rapport à leurs décisions, par rapport à leur qualité de vie, à la façon dont ils se sentent. Ben, c'est bingo, quoi.
Mais explorer reste le plus important ?
Ouais, clairement explorer, vouloir toujours apprendre sur soi, sur les autres, sur le monde, c'est quelque chose qui va vous permettre de grandir, de trouver la façon dont vous allez fonctionner. Il n'y a pas une façon unique de fonctionner, il y a plein de façons différentes. Apprenez comment les autres fonctionnent et puis peut-être qu'il y en a une qui fonctionnera pour vous.
Un grand merci Perrine pour le moment qu'on a passé ensemble et tout ce que tu nous as partagé. J'espère que ce sera inspirant pour les étudiants qui nous écoutent. Retrouvez le mardi, une semaine sur trois, un nouvel épisode d'Altitude sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me laisser un message sur Apple Podcast. Altitude est un podcast rendu possible grâce aux facultés de l'Université catholique de Lille. À très vite!